Jazz aux éclats sur RCN.
Alain Aubrège.
Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à Jazz aux éclats. Avec moi aujourd'hui, bien, j'ai le plaisir d'accueillir pour une émission un peu spéciale mon ami Dominique Breda, qui est animateur de l'émission Tempo Classique le mardi soir. Hein,
tout à fait,
sur
bonsoir
RCN.
À tous.
Et puis, de l'autre côté de la table, Jean-Pierre, bonjour.
Bonjour.
Jean-Pierre, que ça fait longtemps qu'on ne t'a pas vu ici, mais...
Un certain temps.
Tu viens de temps en temps et tu nous diras tout à l'heure... Pourquoi spécialement tu as tenu à venir aujourd'hui ?
D'accord.
Alors aujourd'hui, eh bien Dominique, on va parler de jazz et de musique classique. Je ne sais pas trop comment on peut appeler ça. C'est pas une confrontation, c'est pas une comparaison, c'est pas une opposition. Il y a de nombreuses façons de considérer les liens qui existent et qui sont forts entre le jazz et la musique classique. Bon, on va tenter d'en parler et puis. On verra, et ça m'intéresse beaucoup de voir comment tu vas réagir, parce que je dois préciser que tu ne connais pas le programme.
Tout à fait.
Voilà. Alors, eh bien, on va commencer tout de suite par écouter un thème de jazz, une composition de Thelonious Monk, enregistrée en 1984, Rhythmaning. Rhythmaning, une composition de Thelonious Monk jouée par le Quatuor Chronos. C'est Chronos. Alors, ça tombe bien dans le thème de cette émission, parce que le Quatuor Chronos fête actuellement son 50e anniversaire. Quatuor Chronos, qui n'est pas, ce ne sont pas des musiciens de jazz.
C'est des
musiciens, c'est un quatuor. Alors, bon, ils sont un peu orientés vers la musique contemporaine, la musique moderne. Ils jouent Terry Riley, Steve Reich, Philip Glass, mais aussi Lutoslavski, etc. etc. On va parler de Bartok tout à l'heure. Ils n'ont, à ma connaissance, pas joué les quatuors de Bartok.
Oui, mais enfin, là, il y a un peu... on n'est pas loin.
On n'est pas loin. Alors, il faut préciser qu'ils étaient, à cette époque-là, en 84, en compagnie du bassiste Ron Carter. Ouais. Ron Carter, que lui est un musicien de jazz estimable. Voilà, bon, c'est un beau début.
Ah ben oui, moi, ça me plaît beaucoup, ce genre de musique.
Oui. Alors, moi, je me souviens avoir vu et entendu le Quatuor Chronos à la Salle Poirel il y a fort longtemps. Ils avaient un programme où ils mélangeaient des pièces plus classiques avec des morceaux de jazz et même de blues. Et c'était fort impressionnant. Bon, il faut dire qu'ils n'avaient pas l'allure d'un quatuor classique. Ils avaient des cheveux longs.
Il y avait le look qui allait avec.
Voilà. Jean-Pierre, ça te convient ?
Oui, je me pose une question, surtout, quel est le lien avec la suite ?
Alors, le lien avec la suite, on va continuer.
Tu peux pas répondre.
Tu peux pas répondre. Le lien avec la suite, puisqu'on est avec des quatuors, on continue. Allez. Bon, si vous prenez cette émission en cours, vous êtes bien sur Jazz aux éclats. Hein. C'était un quatuor. Alors cette fois-ci, c'est pas des jazzmen du tout. C'est le quatuor Arditi.
Oui.
En 1978, et c'est un extrait du quatuor numéro 1 de Gheorghe Ligeti. Alors Gheorghe Ligeti, musicien né dans la minorité hongroise de Roumanie, puis ensuite naturalisé autrichien, très très influencé par Bartok, Jean-Pierre, toi qui es un amateur de Bartok.
Enfin, il a été au début, il a été moi après, et à nouveau il est revenu à Bartok.
Oui, alors Ligeti d'ailleurs, aimait beaucoup le jazz, et bien qu'il, alors il a jamais joué de jazz, hein, mais il aimait beaucoup le jazz, et en particulier, il aimait bien Thelonious Monk qu'on a entendu précédemment, mais
voilà,
aussi...
Voilà, je discernais un lien.
Alors, c'en est un, et c'est un extrait de son quatuor numéro 1, dit les métamorphoses nocturnes. Et alors, pourquoi je vous fais entendre ça? Parce que c'est pas déplaisant dans une émission de jazz, hein. Eh bien, l'occasion m'en est donnée par la parution, j'avais pas eu l'occasion de vous en parler, un formidable album paru au début de l'été de l'année dernière, un album en duo du saxophoniste Émile Parisien au saxophone soprano avec le pianiste Roberto Negro, un album qui est entièrement consacré à ce premier quatuor de Ligeti. Alors c'est pas, il ne rejoue pas le quatuor de Ligeti, mais il s'en inspire, et ils ont eu c'est assez joli, ils l'ont pas appelé Métamorphose Nocturne, ils l'ont appelé les Métanuits. Alors je propose qu'on écoute tout de suite un extrait de ces Métanuits d'Émile Parisien et de Roberto Negro, Vivace Capriccioso. Thank you. un extrait des Métanuits, Émile Parisien, Roberto Negro, d'après le quatuor de Ligeti. Alors,
On est vraiment dans un univers jazz, alors qu'avec le Ligeti, on était dans un univers, à mon avis, plutôt classique. Après, deux instruments qui ont travaillé ce qu'ils ont à dire. Et toujours du fourmillement rythmique, du fourmillement harmonique, du fourmillement mélodique, du fourmillement de virtuosité.
Voilà. Enfin, le fourmillement du jazz.
Voilà, le fourmillement du jazz. Voilà. Je ne suis pas sûr que j'écouterai ça toute une soirée, mais sur une pièce comme ça, oui, pourquoi pas.
Oui, mais on va réécouter quand même un deuxième passage. Hein, Jean-Pierre.
Sur le plan de la rythmique, ça se rapproche quand même assez facilement de Ligeti. Hein. Parce que la rythmique est très marquée dans la musique de Ligeti. Chez eux, elle vient naturellement puisque c'est du jazz. C'est un des points de contact, d'ailleurs, je trouve. Le développement de la rythmique entre la musique en musique contemporaine et dans le jazz est un point de contact, souvent.
Oui, oui.
Hein,
oui.
La rythmique, la percussion qu'on trouve dans la musique contemporaine.
Plus que l'harmonie.
Plus que l'harmonie, les dissonances aussi qu'on trouve dans la musique contemporaine. L'âpreté des sonorités, parfois aussi. Tout ça, je trouve que c'est des points de contact entre les improvisations de jazz et la musique contemporaine.
Ça dépend qui fait et dans quel esprit, parce qu'il y a quand même des choses en musique contemporaine savante, disons, qui sonnent très bien, très classiques, alors qu'il y a des choses qui datent déjà et qui sonnent de manière très résolument moderne. Ça commence chez Gesualdo, des harmonies très, très modernes. Et puis dans le jazz, c'est pareil, on trouve des gens qui se coulent dans la tradition et qui maintenant font des choses qui pourraient être datées.
Qui sont carrément parfois datées.
Et il y en a d'autres qui transgressent un peu le genre et qui vont vraiment très loin, quoi.
Bon, je vois que ça vous inspire, alors allez, on en reprend une petite dose, encore un autre extrait à la Marcia Pesante.
Thank you.
Bon, on est un petit peu essoufflé après avoir écouté
ça. Ah oui.
Oh. On a quand même l'impression que c'est quelque chose de très autonome hein, par rapport à Ligeti.
Oui, alors, bon, on peut pas faire ça, on peut pas faire ça ici, mais moi je les ai écoutés l'un à côté de l'autre, si je puis dire, et on s'y retrouve bien, hein, on s'y retrouve bien.
Oui. Là, il y a une amplification à partir d'un tout petit ostinato de rien du tout.
Oui.
On va chercher des trucs avec une énergie folle, quoi. Ouais. Enfin, on accélère, ils accélèrent, on a l'impression qu'ils s'amusent un petit peu.
Oui, oui. D'ailleurs, à la fin, je ne sais pas si vous l'avez entendu, il y a un éclat de rire. Ils sont arrivés. Bon, alors tu me disais, Dominique, en écoutant ça, que le pianiste essaye de pousser à bout le saxophoniste, mais il n'y arrive pas.
Non, ça suit toujours.
Il n'y arrive pas. Enfin, en tout cas, c'est Métanuit de Parisien, d'Émile Parisien et de Roberto Negro. C'est vraiment un très, très bel album.
Jazz aux éclats sur RCN.
Alors, ça m'a donné l'idée, c'était l'idée de départ de cette émission et de l'invitation que je vous ai faite. Ligeti, on en parlait, je le disais tout à l'heure, Ligeti influencé par Bartok, eh bien, on va écouter Bartok maintenant, la musique de Bartok. Alors c'est un petit peu plus ancien, ça date de 2017, ça a été enregistré à Budapest. C'est un album consacré à des compositions de Bartok, joué par Mathias Sandai. Mathias Sandai, c'est un contrebassiste hongrois qui est à l'aise à la fois dans le classique et dans le jazz. Il est en compagnie d'un violoniste français, Mathias Lévy, qui lui aussi... est à l'aise dans les deux domaines. Et puis, c'est Bartok, c'est la Hongrie. Il y a un joueur de cymbalum, Miklós Lukács. Et bien, je vous propose qu'on en écoute leur interprétation d'une composition de Bartok. C'est une improvisation de Bartok sur des rythmes bulgares. Thank you. Bartok, le trio de Mathias Sandai. Dominique.
Bah, le jazz, c'est vraiment très large. Hein, parce
que... oui, hein.
Oui. Bon, d'un autre côté, heureusement que Bartok existe.
Oui, effectivement.
Ça aide aussi.
Oui. Oui.
Mais ça donne des idées. Mais c'est vrai que. Après, les instrumentistes vont, pareil, vont chercher des choses assez hallucinantes.
Hein. Oui, c'est. Jean-Pierre,
oui, alors,
Jean-Pierre, toi, le grand amateur de Bartok.
Oui, entre autres compositeurs. Mais bon, là, on a des thèmes très dansants. Hein.
Oui.
Ça fait penser à l'époque où Bartok parcourait l'Europe centrale, en notant sur ses carnets les thèmes folkloriques. Et ces folklores-là qu'il a considérablement digéré, transformé après dans ces grands morceaux, ces grandes pièces.
Tout à fait. Hein.
Oui. Donc on pense à cette époque-là, c'est le Bartok de cette époque-là.
Oui, bien sûr. Alors, n'est-ce pas aussi ce que font un certain nombre de jazzmen, justement, de s'approprier des musiques populaires, des musiques folkloriques, depuis le début. Hein.
Mais c'est certainement une façon très riche de faire de la musique, ça.
Alors il y aurait beaucoup à dire sur les rapports de Bartok avec le jazz. On n'a pas le temps de développer ça, mais bon, il faut savoir que Bartok, il a vécu aux États-Unis.
À New York.
Qu'il y a entendu des jazzmen, qu'il a fréquenté quelques jazzmen, et que, ben, par exemple, ce concerto avec clarinette a été créé par Benny Goodman. Donc, il y a quand même un lien. Hein,
Mais je pense qu'il y a des points de contact encore plus importants que ça, mais ce serait peut-être un peu long à développer.
Bah tu reviendras les développer une autre fois, Jean-Pierre. allez, on écoute encore Bartok et le trio de Mathias Sandai. Cette fois-ci, c'est un Noël roumain. Trio de Mathias Sandai.
Moi, je suis toujours assez estomaqué de la vitalité rythmique de ces musiques-là. C'est jamais évident pour un musicien d'Occident de jouer des choses à 5-8, à 7-8, là, comme on a entendu dans les deux dernières choses. On a vite fait de se perdre, mais alors on a l'impression que ces gens-là font ça avec un naturel déconcertant.
Oui, c'est...
Pour... Il y a pourtant des Français dans l'affaire.
Hein, mais... Oui. On s'est plutôt réussi.
Très chouette, oui, bien sûr.
Allez, d'un bassiste à un autre, on écoute des bassistes, on avait Ron Carter tout à l'heure. Cette fois-ci, c'est encore un Français, c'est Yves Rousseau, bassiste français, avec un septet qui s'intitule, Dominique, ça s'appelle le Wanderer Septet.
Ah, oui.
Ça te dit quelque chose,
oui.
Wanderer.
Oui.
Bon, alors ils ont, justement, ils ont consacré en 2015 tout un album intitulé Wanderer, la musique de Franz Schubert.
Voilà.
Carrément. Musique de Franz Schubert qu'ils ont...
Revisité.
Alors là, c'est un peu différent comme propos parce que ils ont fait des collages.
Écoutons.
Alors, ça se présente un peu comme une succession de morceaux, mais qui forment un ensemble, une suite. Oui. On va écouter le final, le Wanderer Septet. quand Schubert inspire le jazz, le Wanderer Septet du bassiste Yves Rousseau.
Oui, ça demanderait à être réécouté déjà la version Schubert, oui. Bon, pour alors, comparer
avec, parce que des, là, avec des passages, des passages de la jeune fille et la mort, le quatuor ouais, la jeune fille et la mort, ou le roi des zones. Oui. C'est bon. Alors c'est un disque qu'il faut écouter attentivement, et puis peut-être effectivement écouter le Schubert.
Hein. Moi, je trouve que dans ce morceau là, on perçoit pas trop l'unité, je trouve.
Oui, c'est ça, c'est un collage, c'est ce qu'on disait tout à l'heure.
Il n'y a pas trop d'unité.
Alors, peut-être que l'unité, on la retrouve quand on écoute l'album entier. C'est une autre façon de faire. Bon, bah,
c'est peut-être un peu moins convaincant, peut-être.
Oui, c'est. Alors, on a la forme ABA, bon, d'accord, le truc qui revient du début, qui revient à la fin. Et puis quelques clins d'œil, oui, c'est ça, mais une grande unité, je ne sais pas.
Oui. Non, bon, pas trop, je vous sens un peu moins convaincu, mais ce n'est pas très...
c'est pas grave, on est ouvert.
Hein. Ce n'est pas très très grave. Alors, on va changer complètement. Hein. Quand on parle comme ça du jazz et de la musique classique, la première idée qui vient à l'esprit, c'est Jean-Sébastien Bach. Oui. Hein, bon, alors on se souvient de Playback de Jacques Loussier, qui mérite d'être écouté d'ailleurs.
Hein, ah oui, bah à l'époque c'était assez révolutionnaire.
Les Swingelsingers, etc. Keith Jarrett, c'est autre chose, parce que Keith Jarrett, lui, quand il joue les variations Goldberg, c'est les variations Goldberg.
Hein, mais il n'y touche pas.
Et il n'y touche pas. Hein, c'est pareil quand il joue Shostakovich, c'est Shostakovich. Hein. Non, Jacques Loussier, il se permettait quand même. Bon. Ah ben on ne va pas écouter Jacques Loussier, mais on l'écoutera peut-être une autre fois.
Je crois que la musique de Bach, la musique baroque, c'est le style dit baroque à l'époque, va bien avec le jazz, je pense.
Oui, ben c'est ce qu'on a toujours pensé. Et depuis longtemps, hein, Django Reinhardt...
Mais surtout Bach.
Surtout Bach.
Parce qu'il y a une richesse dans Bach qu'il n'y a quand même pas tout à fait chez les autres.
Ouais. Qui on improvise aussi dans sa musique, ah chez Bach.
Oui.
Plus qu'après, parce qu'après, c'est très écrit chez les compositeurs.
Pour illustrer cette discussion, je vous propose qu'on écoute quelque chose, une toute petite pièce que j'aime beaucoup. C'est une interprétation du prélude en do majeur, BWV 846 de Jean-Sébastien Bach par le saxophoniste Lenny Popkin en 2012. Lenny Popkin, c'est un saxophoniste qui n'est pas suffisamment reconnu et pourtant. Un élève de Lenny Tristano, on en parlera une autre fois. Lenny Popkin, il est tout seul et il y a du re-recording.
D'accord.
Lenny Popkin. Thank you. Lenny Popkin.
Moi, j'ai eu un flash, je me suis dit, c'est le nouvel Ave Maria de Gounod.
Oui, ça, c'est vrai, oui, effectivement. Oui, non, non, mais j'y avais pas pensé, mais effectivement,
c'est
oui.
Vrai,
alors,
il y a un peu ça,
c'est Bach, c'est assez fidèle.
Bah, c'est oui, c'est fidèle, harmoniquement, c'est fidèle. C'est qu'est-ce que ça apporte
jazz.
Je sais pas.
Moi, je crois qu'il s'est fait plaisir. Hein.
Oui, d'accord.
Il y a, il y a un petit côté liturgique dans sa musique.
Mais moi, je trouve ça assez joli.
C'est agréable à écouter, quand même.
Ouais.
Non.
Moi, je suis pas.
Pas trop.
Non, je suis pas fan. Mais ça me fait penser à l'histoire du re-recording. Ça me fait penser une fois où j'ai assisté à un concert de Didier Lockwood, qui était venu à Nancy, avec l'orchestre, et qui avait tout un tas de pédales à ses pieds pour pouvoir faire aussi tout ça.
Faire des boucles.
Alors, c'était vraiment bien.
Lenny Popkin, t'es pas convaincu.
Après, il faudrait que je l'entende.
Non, mais bien entendu, mais par ça. Mais j'avais envie, j'aime bien, je trouve que c'est rafraîchissant.
Hein. Jazz aux éclats sur RCN.
Allez, on continue. Ben, on parlait tout à l'instant de baroque.
Oui. Hein.
Alors, on va écouter un pianiste italien, Enrico Piranonzi. C'est lui aussi, c'est un pianiste qui est aussi à l'aise dans le classique et dans le jazz, on va l'entendre, qui a consacré il y a quelques années, c'était en 2016, un album entier des sonates de Scarlatti. Alors, ce qui est intéressant, c'est que il joue la sonate de Scarlatti, et puis il enchaîne, on ne sait pas toujours exactement à quel moment, sur une improvisation. De temps en temps, il fait l'inverse, il improvise et il enchaîne sur la sonate de Scarlatti, et c'est assez intéressant. Alors, on va écouter la sonate de Kirkpatrick 531 de Scarlatti, Enrico Piranonzi. Thank you. Bach, pardon.
Oui, Scarlatti.
Scarlatti, Enrico Pieranunzi. Oui. Bah pour terminer, c'est pas mal. Hein.
Bah c'est sympathique.
Hein, oui, oui, oui.
Très, bon. C'est beaucoup Scarlatti, et puis après, il y a de l'improvisation.
Oui, c'est ça, oui. Mais bon, encore un très très bel album qui vaut la peine d'être écouté, je vous le recommande.
Eh bien, nous l'écouterons.
Voilà. Eh bien, écoutez, merci Dominique, Jean-Pierre, merci de vous être prêté à ce jeu d'écoute. Je ne sais pas comment on pourrait intituler cette émission.
Découverte, moi c'est découverte.
Découverte, mais jazz et classique, l'inspiration. On recommencera, il y aurait d'autres choses à
rencontre
écouter à d'autres
avec
jours.
Plaisir.
Merci à vous deux, merci à Jean-Luc à la technique, et puis excellente semaine à toutes et à tous. On se retrouve vendredi prochain.